Bonjour à tous. Voilà, excusez-moi, j'aime bien être à l'aise. Hein? Je sais pas, tu voulais dire quelque chose parce que je voyais que tu regardais sur ton machin là. J'espère que tu faisais pas ton courrier. Non, tu veux rien dire? T'es pas sûr?
Ouais.
Tu me laisses parler et puis après tu diras justement.
Ouais.
C'est ça. Très bien. On va prier. Seigneur, merci, merci pour ce temps de louange. C'est vrai que nous avons cherché à honorer ton nom, à te mettre à la première place, à t'élever, à faire abstraction de nos soucis du jour pour vraiment nous tourner vers toi. Je te bénis pour cela, mais c'est vrai que chaque fois qu'on t'adore ou qu'on te célèbre, tu nous bénis et tu nous remplis en retour. Et tu l'as fait encore ce matin. Bénis la méditation de ta parole, Seigneur. Nous voulons rester attentifs à cette parole que Christian nous a adressée. Amen. Voilà, c'est un message que j'ai déjà raconté dans les années... Mais quand on partageait avec Serge, Nicole, tout ça, sur ce que le Seigneur était en train de nous dire ces temps-ci, il nous semble que... La place de la parole de Dieu devait correspondre à ce que Christian nous disait de la part du Seigneur. Et vous me direz, ouais, il est à la retraite, il tire une fiche du tas et puis il va nous raconter un truc, ça passera toujours. Hein? Bien sûr, comme Christian dit, c'est la parole de Dieu, ça n'a jamais fait de mal à personne. C'est ce que disait mon père quand il me mettait un coup de Bible sur la tête. Je lui dis, mais enfin, la parole de Dieu n'a jamais fait de mal à personne. Farceur. Alors, je crois que ce n'est pas par facilité, mais c'est que quand on parlait, quand on partageait entre nous, revenaient ces paroles que nous avions méditées en son temps. Et je te remercie, Christian, pour cette parole que tu donnes ce matin de la part du Seigneur, parce qu'elle m'encourage à rester dans ce que nous voulons méditer ce matin. Alors, dans Matthieu 13, je ne sais pas si vous avez lu Matthieu 13, c'est un chapitre intéressant où Jésus parle du royaume de Dieu, qui est en fait la finalité qui nous est réservée à ceux qui... Gardons la foi jusqu'au bout. Et il développe dans ce chapitre, plusieurs paraboles concernant ce que l'on a donné comme titre, les paraboles du royaume. Mais il va commencer son exposé par une parabole qui est la parabole du semeur. Et comme vous le savez sans doute, et si vous ne le savez pas à la fin de ce message, vous le saurez parce qu'en rentrant à la maison, vous allez le relire. Et le peuple de Dieu dit, voilà, merci. Non, mais parce que quand il y a une hésitation. Alors, cette parabole, elle met en évidence les manières dont on écoute justement la parole de Dieu. Alors, il y a différents terrains, etc., etc., et il y a un développement. Et Marc même va rajouter dans son évangile une parole que Jésus aurait rajoutée à la fin de son discours, et il va dire, si vous ne comprenez pas cette parabole, comment comprendrez-vous toutes les autres? En fait, la manière dont on va écouter va déterminer ce que nous allons recevoir au fond de notre cœur en profondeur. Les choses qui vont rester, celles qui nous marquent. On peut lire la parole de Dieu, je l'ai lu maintes fois, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas rentrées, et même à l'heure actuelle, des domaines qui restent un peu mystérieux ou que je ne réalise pas. Mais quand on s'arrête et qu'on sonde les Écritures, qu'on essaye de comprendre et d'aller au fond des choses, eh bien, le Seigneur vient à notre secours et va nous parler. On se souvient également de la parabole de la maison construite sur le sable et sur le roc, et de la différence de fondation, qui font que lorsque l'épreuve arrive, lorsque la tempête arrive, la maison tient debout ou pas. Et il en est de même dans nos vies. Quand les épreuves sont hyper violentes au point de nous faire chanceler et nous faire perdre la foi, la question n'est pas de savoir si Dieu nous aime ou pas, la question est de savoir comment j'ai écouté ce qu'il m'a dit précédemment. Il faut être honnête. Il y a eu des dimanches où on entendait des amen et des alléluia. Aujourd'hui, je ne sais pas si ce que je dis... Non, mais... Vous ne savez pas où je vais. Ça va venir. Bon, méfiez-vous. Voilà. Alors, je me suis posé la question, mais quel but recherche notre Dieu en nous attirant dans la méditation de sa parole? Chacun a sa... petite idée sur la question. Ce sont de bons conseils, ce sont des promesses, ce sont des encouragements, c'est ceci, c'est cela. Oui, mais par exemple, si nous lisons Ézéchiel 36, on peut l'afficher, 26 à 28, Ézéchiel nous dit de la part du Seigneur, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, c'est mon esprit que je mettrai en vous, ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions et garder et respecter mes règles. » Le but de Dieu, c'est de changer notre cœur. C'est d'aller au fond du fond de nous-mêmes pour nous dire « je ne suis pas simplement un réparateur, mais je suis celui qui va changer ton cœur. » Nous sommes parfois bien malléables entre les mains du Seigneur et nos cœurs se laissent influencer par l'action de son esprit, il va sans dire. Alors, nous trouvons dans sa parole tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie de victoire et nous acceptons assez facilement les remises en question que le Seigneur nous demande d'avoir dans certaines circonstances pour nous remettre dans le chemin de la vie. Vous êtes d'accord? Bien. Ézéchiel 33, versets 10 et 11, nous dit, « Et toi, fils de l'homme, dis à la communauté d'Israël, voici comment vous parlez. Nos transgressions et nos péchés pèsent sur nous. C'est à cause d'eux que nous dépérissons. Comment pourrions-nous vivre ? « Dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir, mais à le voir changer de conduite et vivre. Renoncez à votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël ?» Ou peuple de Dieu en général. Hein ? Ça, c'est le désir de notre Dieu. C'est pas... de nous attendre au coin de la rue pour nous dire « Ah, il y a dérapage, bla !» Trop tard, c'est dommage. Tu aurais pu peut-être avoir une bénédiction, mais là, non, c'est raté. Sanction. Non, le désir de notre Dieu, ce n'est pas de punir, de châtier, de corriger, mais de nous donner, de réaliser ce qui va réellement nous faire vivre. Mais il faut considérer, comme nous le rappelait la parole ce matin, ce qu'est la parole de Dieu. Hébreux 4, 12, 13, nous connaissons tous très bien ces versets. En effet, la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants pénétrantes, jusqu'à séparer âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle veut descendre au plus profond de nous. Aucune créature n'est cachée devant lui, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devrons rendre compte. Ainsi, la parole de Dieu va descendre en nous pour créer cette séparation entre ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas, entre ce qui a une apparence très spirituelle et ce qui est un comportement factice. Alors, je me pose la question, je dis, pour quelle raison la parole de Dieu n'accomplit-elle pas toujours la délivrance que nous attendons? Pourquoi? Nous connaissons tout cela, je ne vous apprends rien de nouveau, souvent je le dis. Mais pour quelle raison, chaque fois que je lis la parole de Dieu, que je me plonge en elle, pourquoi ne produit-elle pas de délivrance puissante à la hauteur de ce que nous découvrons et de ce que le texte nous dit? Premièrement, je pense qu'en ouvrant la parole de Dieu, nous avons tout simplement oublié en préambule le but que Dieu s'est assigné en nous la confiant. Il veut d'abord changer notre cœur. Nous cherchons, nous, dans notre manière de méditer la parole de Dieu, nous cherchons à régler un problème précis en cherchant une réponse particulière que nous estimons prioritaire dans le temps que nous sommes en train de vivre. Nous oublions que le but de Dieu, lorsqu'on ouvre sa parole, c'est qu'il veut changer le fond de notre cœur, changer notre mentalité, changer l'esprit qui régit toutes les décisions que nous allons prendre. C'est ça que le Seigneur veut toucher. Alors bien souvent, nous considérons la parole de Dieu comme ça. Ne vous inquiétez pas. On la considère comme ça. Oui. Alors tous les bricoleurs savent à quoi ça sert, n'est-ce pas? Non? Vous n'avez jamais bricolé? Achetez une maison et vous verrez, vous apprendrez à bricoler. Hein Robert? Là, on l'a pas mal utilisé, là. Ça sert à coller le carrelage. Vous voyez? Mais on prend un maillet en caoutchouc parce qu'on ne veut pas que ça se casse. Et nous voulons parfois découvrir la parole de Dieu un peu comme ça. Seigneur, nous, on a envie que ça colle et que ça colle bien, mais surtout, tu casses rien. S'il te plaît, tu casses rien. Mais dans les dérapages qui sont les miens aujourd'hui, tu vas faire en sorte que ça colle bien, mais ne me casse rien, s'il te plaît, Seigneur. Et nous considérons la parole de Dieu comme ça. Et nous pensons que le Seigneur va tout faire coller parfaitement, sans rien casser. Je la laisse là, pour que vous ne la perdiez pas de vue. Ou bien on peut agir comme ça aussi. C'est un marteau d'électricien. Alors là, vous savez, c'est quand on prend la parole de Dieu et qu'on dit, Seigneur, ce que je suis en train de vivre, c'est pas si grave que ça. Tiens, il veut plus défaire. Qui c'est qui a fermé ça? C'est un marteau qui est fait pour aller au fond des baguettes. Bon, maintenant on s'en sert moins, parce qu'on a la colle et tout ça. Mais c'est ce qu'on dit souvent au Seigneur. Seigneur, c'est un petit problème. C'est j'ai dans la vie un truc pas important, pas grave. Tu vois, il faudrait que tu interviennes, tu vois, que tu rajoutes peut-être 3 petites pointes. Mais tu fais attention à ne pas taper à côté, quoi. C'est juste à ce niveau-là qu'il faudrait intervenir. Pas au-dessus, pas en dessous. Seigneur, s'il te plaît, je te prie avec foi et détermination pour ce problème-là. Prends l'outil qui correspond à cela et pas plus. Surtout, Seigneur, tape pas à côté, parce qu'à côté, tout va bien, sauf là. D'accord? Alors, prends soin de ça. Alors, le Seigneur, il dit rien. Il dit rien, il nous écoute raconter nos salades, et il ne dit rien. Mais lui, le Seigneur, lui, il n'a pas prévu les choses comme ça. Lui, il nous rappelle que ce qui m'intéresse, ce n'est pas les trois petits clous là, que tu veux mettre. Ce qui m'intéresse, c'est tout ce qu'il y a derrière, c'est ton cœur que je veux toucher. Et je voudrais te rappeler que pour moi, la parole de Dieu, c'est ça. Pour moi, la parole de Dieu, c'est ça. Pourquoi ? Parce que est-ce que l'on pense que le Seigneur Jésus, il est venu sur la terre pour régler nos petits problèmes du quotidien, nous organiser une vie confortable ? Non, parce qu'il nous aime, il est venu faire sauter des verrous et briser des portes d'airain. Il n'est pas venu avec un maillet en caoutchouc pour faire ce travail-là. Non ? Vous n'êtes pas d'accord ? Et si on n'en est pas convaincu, il n'avait pas à la main un maillet en caoutchouc. Non ? Demandez au marchand du temple si Jésus il est venu avec un marteau d'électricien ou un maillet en caoutchouc en leur disant « c'est pas bien hein, ce que vous faites ». Non. Parfois, nous avons à la place du cœur un pavé, un cœur de pierre qui est bien marqué. Le Seigneur nous interpelle alors et il nous dit, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, comme un marteau qui brise le roc ?» Jérémie 23, 29 le laisse là aussi. Mais je le mets bien au milieu pour pas que tout bascule. Regardez-les bien, ces marteaux. Alors, je nous pose une question ce matin. Imaginez que ce que Christian nous rappelait ce matin, ce que je suis en train de vous dire, que cette parole-là, ma parole n'est-elle pas comme un feu, comme un marteau qui brise le roc ? Imaginez, quelques instants, que cette parole-là s'accomplisse maintenant, ce matin. Là, nous le lisons. Nous avons chanté des choses qui étaient assez engageantes hein, ce matin. J'ai fait attention à ce qu'on chantait, hein. Serge nous y a exhorté, mais là, j'ai doublement fait attention par rapport à ce que j'allais dire. Imaginez que tout ce que nous avons chanté ce matin s'accomplisse. Là. Qu'on donne ce pouvoir à la parole de Dieu. Oh, mais là, le pouvoir qu'elle a, hein, on n'a rien à rajouter. Si la parole de Dieu trouve toute sa puissance et son pouvoir par ton obéissance. C'est tout. Tu enlèves ça. C'est le pays brillard. C'est tout. Elle est vide. Alors, vous savez ce qu'on va faire ce matin ? On va simplement lire la parole de Dieu. Et on va lire un psaume que tout le monde connaît. Mais on va le lire avec une mentalité différente. On va le lire comme si c'était un feu, comme si c'était un marteau qui brise le roc. Et que les domaines de nos cœurs qui sont endurcis explosent pour que cette parole soit puissante et active. Alors on va lire ensemble le psaume 107. On va le lire ensemble et il raconte plusieurs situations diverses. Si à la fin j'aimerais que l'on... Je ferai un appel pour que j'aimerais prier vraiment pour que tous ceux qui sont concernés par tel ou tel épisode, on ne demandera pas de le préciser, mais de faire en sorte qu'on prie et que quelque chose se passe à partir d'aujourd'hui. Amen. On va prendre Dieu au sérieux, et sa parole encore plus. D'accord ? Alors, prenons le psaume 107, et on va le parcourir, du verset 1 au verset 9. « Louez l'Éternel, car il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés du pouvoir de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Ils erraient dans le désert, en chemin, dans des lieux arides, sans trouver de ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était abattue. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a conduits par un chemin bien droit pour qu'ils arrivent dans une ville où ils puissent habiter. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a désaltéré les assoiffés et il a comblé de bien les affamés.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
D'un côté, il dit qu'il rassemble tout le monde et c'est formidable. D'un autre côté, il rappelle, tu marches dans ta vie sans trop savoir où aller. Tu cherches toujours un lieu où poser tes valises. Tu ne sais pas où tu en es. Tu te poses des questions. Est-ce que c'est vraiment ici le bon endroit ? Est-ce que c'est la bonne église ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Je te pose une question. Est-ce qu'à un moment donné dans ta vie, tu t'es réellement bien senti quelque part où tu as pu t'investir, où tu as pu être aimé de ceux qui étaient là, ou à ton tour, aimer ceux qui étaient là ? Est-ce que tu l'as vécu déjà ? Est-ce que tu l'as vécu ? Et tu continues à chercher et à tourner et à aller à droite, à gauche. Non, ici, c'est un peu bidon. Souvent, excusez-moi les jeunes, Coulommiers, c'est un peu nul. Hein. Tu ne parles pas comme ça ?
Non, on est un peu
nul. Oui, oui. Je ne citerai pas de nom. Enfin, ceux qui restent, ils aiment Coulommiers. Les autres sont déjà partis. Il y a de bonnes raisons pour partir. Hein. Mais je vous le dis, à un moment donné, il faut que tu comprennes quel est le projet de Dieu et qu'enfin tu puisses poser tes valises et dire « Le Seigneur m'a appelé à être ici et à servir et à aimer et à être rempli de compassion pour tous ceux qui m'entourent. » Alors je rappelle, ce n'est pas un péché si nous partons à condition que le Seigneur nous l'ait clairement montré. Je ferme la parenthèse. Si tu es paumé, si tu ne sais pas, si tu hésites, si tu imagines n'importe quoi, ce matin, il y a une réponse que le Seigneur veut te donner. Il dit, il les a conduits par un chemin bien droit pour qu'ils arrivent dans une ville où ils puissent habiter. Et quelquefois, la ville dans laquelle tu te trouves, elle devient invivable parce que tu l'as sérieusement pourrie, quoi. Parfois, tu as créé dans ton mécontentement des situations qui te rendent aujourd'hui la vie impossible. Et tu te dis, oh là là, il faut que je me barre, ça devient, c'est trop. Non, il faut être honnête, réfléchis. Le Seigneur te dit qu'il te conduit par un chemin tout droit pour que tu arrives dans un lieu qui soit habitable. Alors, s'il te plaît, ne le rends pas inhabitable. Alors ce matin, le Seigneur a prévu quelque chose pour toi. Reprenons notre lecture, verset 10. « Ceux qui habitaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort étaient prisonniers de la misère et des chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils les avaient méprisés, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il a humilié leur cœur par la souffrance. Ils trébuchaient et personne ne les secourait. » Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il a arraché leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour les merveilles en faveur des hommes, car il a mis les portes de bronze en pièces. Il a brisé des verrous de fer. C'est ce que le Seigneur veut faire si tu es pris dans un piège. La volonté de Dieu et son conseil te sont apparus clairement un jour dans ta vie, mais tu t'es entêté dans tes projets et dans ta volonté. Aujourd'hui, tu es brisé parce que Dieu n'a pas pu t'accompagner sur ce chemin-là. C'était le tien. Et tu demandes à Dieu de bénir et de bénir encore et de cautionner les décisions que toi seul tu prends. Comment peux-tu dire, Seigneur, bénis ce que moi seul décide ? Est-ce que ça tient la route ? Est-ce que c'est un christianisme qui honore notre Seigneur ? Alors ne rejette pas non plus la responsabilité sur les autres parce que personne ne te secourt, parce que, soi-disant, personne ne comprend ce que tu es en train de vivre. Tu es le seul responsable de ce que tu es en train de vivre. Dieu t'avait parlé et tu l'as méprisé. Mais aujourd'hui, comme le dit le texte, si tu crie vers ce Dieu sincèrement de tout ton cœur, non pas avec un cœur avec style Maillet, hein, non, mais de toutes tes tripes, tu dis, Seigneur, je me suis entêté et j'ai voulu suivre mes propres projets, je suis dans la déprime. Seigneur, tu dis que tu brises, tu fais sauter des verrous de fer, tu brises des portes d'airain. Seigneur, j'ai besoin de cette intervention de ta part dans ma vie. Viens vers moi ce matin, je te le demande au nom de Jésus. Lisons la suite du texte, psaume 107, versets 17 à 22. Les fous, par leur conduite coupable et par leur faute, s'étaient rendus malheureux. Ils avaient en horreur toute nourriture et touché aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, il les a délivrés de leurs angoisses. Il a envoyé sa parole et les a guéris, il les a fait échapper de la tombe. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour les merveilles en faveur des hommes. Qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance et qu'ils racontent de quelle est sa façon d'agir avec des cris de joie. Ça, c'est un peu bizarre. Ça amplifie encore ce que nous venons de lire précédemment. Les fous, par leur conduite coupable et par leur faute, s'étaient rendus malheureux. Quelquefois, ça me fait penser à ceux qui jouent à être chrétiens. J'étais de cela, je connais bien l'affaire de l'intérieur. J'étais capable de rendre témoignage et de voir des gens qui se convertissaient, et moi-même, je n'étais même pas converti. On peut être les agents doubles. On peut connaître tout ce qui est écrit dans le livre, tout ce que Jésus a pu faire, le raconter aux autres et qu'ils soient touchés sans que nous-mêmes, cette parole ne soit pas comme un marteau qui brise le roc, parce que le cœur n'est pas touché. Nous avons toutes les apparences. Mais au bout d'un moment, le Seigneur décide de nous prendre en charge. Il nous fait sombrer, je dirais, dans la désillusion, dans la dépression même dans les maladies psychiques. Par exemple, quand il dit « ils avaient en horreur toute nourriture » et touché au port de la mort, ça ne ressemble pas à l'anorexie alimentaire, hein ? Ça peut être l'anorexie, ça peut être la boulimie, ça peut être des addictions les plus diverses. Quand on n'arrive plus à saisir ce que Dieu veut faire en nous, eh ben on prend des dérivatifs. Et on descend. Mais le Seigneur nous avertit, je dis « attends ». Moi, j'ai prévu une solution pour toi si tu cries vers moi. Je vais envoyer cette parole qui va te guérir, qui va te sortir de cette situation misérable dans laquelle tu es. Parce que je veux te donner la vie. Je veux que tu l'aies en abondance. Sors de là, lève-toi, crie vers moi. Parce que j'ai une délivrance en réserve pour toi. Continuons notre texte. Si tu es concerné par cette situation, nous allons prier tout à l'heure. Versets 23 à 32. Ceux qui étaient partis en mer sur leurs bateaux et travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là ont vu la façon d'agir de l'Éternel et ses merveilles en haute mer. D'un mot, il fit souffler un vent de tempête qui a soulevé les vagues de la mer. Ils montaient vers le ciel, ils descendaient dans l'abîme, ils étaient angoissés face au danger. Saisis de vertige, ils titubaient comme un homme ivre et toute leur habileté a été réduite à néant. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Il les a délivrés de leurs angoisses. Il a arrêté la tempête, ramené le calme. Les vagues se sont calmées. Ils se sont réjouis de ce qu'elles s'étaient apaisées. Et l'Éternel les a conduites au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des hommes. Qu'il proclame sa grandeur dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Tu penses maîtriser les circonstances. Seulement, tu es obligé de constater qu'un jour, tu es en haut et tu t'enorgueillis, et puis quelquefois, tu es complètement en bas, mais tu as des ressources et tu te dis, moi, même dans cette situation-là, je vais rebondir. Ne vous inquiétez pas, ça va passer. Aujourd'hui, tu es obligé de constater que ta sagesse, ton habileté, tes compétences, elles sont complètement anéanties et tu es dans l'angoisse parce que tu ne sais pas comment t'en sortir. Alors, si la parole de Dieu ce matin, elle est comme un feu, comme un marteau qui brise le roc, ta situation va changer. Si tu cries vers le Seigneur, pour toi, c'est un jour de délivrance. Ton Sauveur va apaiser toute cette tourmente, comme il le dit. Il va ouvrir pour toi un chemin qui te ramène vers le port. Verset 32. Alors, il va te ramener vers ton église, peut-être, vers le projet que Dieu avait préparé pour toi. Alors, laisse tomber, enfin, tes bonnes idées. Laisse tomber. Laisse tomber, dit Seigneur. Je suis plus creux qu'une huître le 31 décembre. Je reviens vers toi, Seigneur. Délivre-moi. Et nous finirons par la fin de ce texte. Il change les fleuves. Ça, c'est tout ce que le Seigneur réserve pour ses enfants. Il change les fleuves en désert, les sources d'eau en zone aride. Le pays fertile en pays salé, à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang, la terre aride en source d'eau, et il y établit ceux qui sont affamés. Ils fondent une ville pour l'habiter, ils ensemencent des champs, plantent des vignes et ils en récoltent les fruits. Il les bénit, ils deviennent très nombreux, et il ne fait pas diminuer leur bétail. D'autres sont diminués et humiliés par l'oppression, le malheur et le tourment. Dieu déverse le mépris sur les grands et les fait errer dans des déserts sans chemin. Mais il délivre le pauvre de sa misère. Il rend les familles aussi nombreuses que des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent, tandis que toute injustice est réduite au silence. Que celui qui est sage observe cela et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Voilà ce que le Seigneur réserve à tous ceux qui le cherchent et qui veulent marcher à sa suite avec obéissance. Que celui qui est sage observe cela et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. On se retrouve dans la parabole du semeur. Alors, ce matin, nous allons prier. Mais je voudrais aussi que chacun de nous n'oublie pas sa délivrance. Et qu'il demeure ferme dans sa décision. Elle n'est pas une fin en soi. Elle ouvre la voie pour que nos cœurs de pierre soient changés en cœurs de chair. Alors, quel marteau nous allons choisir ce matin? Qu'est-ce que tu vas choisir? Est-ce que la parole de Dieu sera ce feu, ce marteau qui brise le roc, et qu'enfin tu ne sois pas obligé sans cesse de remettre l'ouvrage sur l'établi en disant, il reste encore, non. Quand la masse s'abat, le pavé explose. Et le Seigneur reconstruit. Et il change ce cœur de pierre en cœur de chair. Alors, de grâce, ce matin, ne faisons pas de la parole de Dieu simplement un baume pour apaiser les douleurs des entorses de la vie. D'accord ? On considère souvent la lecture et la méditation de la parole un peu comme ça. J'ai mal là, ici ça ne va pas, aussitôt je trouve une bonne promesse et je me masse là où ça fait mal, jusqu'à ce que ça ne fasse plus mal. Mais quand la vie repart, les douleurs reviennent et le Seigneur nous rappelle. Tu n'as pas bien réglé le problème, c'est pas ça. C'est pas parce que tu as mal à un coude que tu commences à chercher la tendinite, le machin, le truc. Dans ma parole, tu... Non, non, c'est pas une boîte dans laquelle on farfouille. Non, tu la laisses agir parce que je veux changer ton cœur de pierre en cœur de chair. Hébreux 6, 12 nous dit: ainsi, ne vous relâchez pas, mais imitez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Il y a un héritage que le Seigneur te réserve. Et c'est ça qu'il faut garder en perspective. Hébreux 10, 35, 39 nous dit: n'abandonnez donc pas votre assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Le juste, et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Amen. Voilà. Alors je voudrais simplement demander à ceux qui se sont reconnus ici ou là, au détour d'une de ces paroles, peut-être levez-vous à votre place. Et puis on va prier vraiment en demandant au Seigneur que ta parole ce matin soit puissante. Je veux changer d'orientation. Je veux que tu me délivres sérieusement et définitivement. Amen. On peut le vivre comme ça? Et puis nous prendrons la Sainte Cène. Voilà. Levons-nous pour ceux qui le souhaitent. Seigneur, ce matin, c'est vraiment avec humilité que nous venons vers toi, parce que nous connaissons ta parole, c'est vrai, depuis peut-être longtemps, mais on ne lui a jamais donné la possibilité d'être puissante pour briser nos cœurs endurcis. Seigneur, combien je te prie que tu puisses avoir ce droit plein et entier dans chacune de nos vies et sur chacune de nos vies. Tu entends le cri du cœur de tous ceux qui se sont levés et qui veulent recevoir de toi la délivrance promise. Seigneur, parce que ce matin, ta parole est puissante pour répondre au cri sincère des cœurs de ceux qui se sont exprimés en se levant devant toi. Seigneur, nous avons tous besoin de cette parole, même si on est resté assis, c'est évident. Mais Seigneur, je te prie particulièrement pour ceux qui en ont marre de traîner toujours les mêmes salades derrière eux. Seigneur, je te demande que tu viennes avec force pour accorder cette délivrance et qu'ils vivent comme des enfants de Dieu doivent vivre, heureux, épanouis, ambitieux pour le royaume de Dieu. Oui, Père, je te prie que les promesses qui sont liées à tous ceux qui crient vers toi soient accordées ce matin dans le beau nom du Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, entends les prières et honore la position que les uns et les autres ont prise. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu accomplis. Merci pour ta bonté. Amen. Amen. Ce matin, nous allons prendre la Sainte Cène, mais nous allons la prendre avec cette mentalité-là. Si nous prenons la Sainte Cène, ce n'est pas un rituel, c'est parce que nous savons bien que dans les difficultés ou les problèmes que nous rencontrons, eh bien, parfois, on a du mal. Vous pouvez vous asseoir, hein, si vous le souhaitez. Vous pouvez avoir du mal à, comment dire, à trouver la solution, à mettre un chemin en marche pour aller vers la délivrance. Mais le Seigneur, quand nous nous approchons de sa table, c'est comme s'il nous rappelait, tu sais, tu as fait ce que tu as pu, moi je te prends par la main et je vais t'accompagner sur le chemin. Tu auras la victoire parce que je suis à tes côtés. Et quand il y a des zones qui t'échappent, moi je viendrai pour te rappeler ce que tu as vécu ce matin et tu auras la victoire. Amen. Oui Serge, tu voulais dire ? Oui. Mais le bien.
Je suis en pleine méditation du psaume 107 ces jours-ci. Alors ce que dit Claude, ça m'interpelle beaucoup. Et par rapport au verset où il est dit qu'il nous conduirait dans une ville habitable, le verset 7, j'ai des petites annotations. Je te conduis sur le bon chemin. J'ai fermé les autres issues afin de te mettre en accord avec ma volonté. Je te conduis même lorsque tu as peur. Parce que je dirige tes pas, tu es plus en sécurité dans un lieu dangereux que j'ai choisi pour toi, et tu le saurais, dans un lieu apparemment tranquille et en dehors de ma volonté. Je t'emmène dans une ville habitable, ta foi y sera renouvelée. Tu verras, il y a aussi des gens brisés, craintifs, blessés, qui attendent ton sourire, une poignée de main ou quelques mots d'encouragement. Si j'allais, c'est le Seigneur qui parle, si j'allais dans cette ville, leurs yeux ne pourraient me voir, ils pourraient te voir, toi. Alors, va et sois mon ambassadrice dans cette cité. Et il y a aussi par rapport au verset 16, car il a brisé les portes des reins et rompu les verrous de fer. Beaucoup ont la vision du service qu'ils devraient accomplir pour moi, mais ils sont empêchés de faire ma volonté par leur propre manque de consécration. Ils tiennent à la sécurité de leur situation présente. Il y a trop à donner, à autrui, à abandonner. Ce sont là les portes des reins que je ne peux pas briser pour eux, parce qu'ils ne sont pas prêts à s'en détacher pour me suivre. Désir sincère de faire ma volonté, prête à tout abandonner, mais tes bien-aimés, tes conforts, ta sécurité pour obéir à mon appel, pour entrer au cœur même de ma volonté, tu verras que l'impossible peut arriver. Au fur et à mesure que tu pries, que tu jeûnes, tu briseras ces portes des reins, je romprai les verrous de fer. Tu verras ma gloire et ma victoire aussi longtemps que tu continueras à me connaître et tu demeureras au cœur de ma volonté. »